Pouillon s'invite chez Castel, tel est le titre d'une exposition d'architecture organisée à Marseille par le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, autour de l'œuvre de Fernand Pouillon, architecte connu à Marseille principalement pour la façade des immeubles qui bordent le Vieux-Port côté mairie et les immeubles de la Tourette qui dominent au bout du Vieux-Port le J4 et à Aix pour les 200 logements. Un architecte qui en son temps, de l'après-guerre aux années 60, a défrayé la chronique et qui, après un passage en prison, a été interdit d'architecture en France. Il sera amnistié par Pompidou au début des années 70. Cette exposition, qui se tiendra du 13 mai au 30 juin 2009 dans le hall de l'ancienne aérogare de Marseille-Saint-Charles, en face de la gare ferroviaire, est également l'occasion pour le CAUE d'éditer la première carte du promeneur architectural. Une carte distribuée gratuitement qui propose l'intégrale de l'œuvre construite et dessinée de Fernand Pouillon dans les Bouches-du-Rhône, à l'exception de quelques villas privées. Sur la grenouille, interview de Jean-Lucien Bonillot, historien, architecte, enseignant, spécialiste de Fernand Pouillon, et Nicolas de Barbarin, du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône.
Je m'y intéresse depuis que je suis étudiant, donc je n'ose pas vous dire depuis combien d'années. Tout simplement en faisant mes études à Marseille, en découvrant les bâtiments du Vieux-Port, en lisant Les Mémoires d'un architecte, qui est un livre de témoignages fabuleux sur le milieu de l'architecture et de la construction dans cette période d'après la Deuxième Guerre. C'est vraiment... une vision tout à fait intéressante qui est donnée dans ce livre. Et puis après, Les Pierres Sauvages, qui est un roman extraordinaire sur la construction de l'abbaye du Thoronet. Connaissant l'écrivain, étant séduit par lui, connaissant un ou deux immeubles, j'ai voulu en savoir plus. Et voilà, j'ai décidé de travailler sur lui. Il y avait peu de choses à l'époque, il y a encore 15-20 ans. Tout le monde connaissait Fernand Pouillon, était très connu du public, mais on ne connaissait pas son œuvre. Voilà. Et un certain nombre de personnes, je ne suis pas seul, il y a Bernard Huette, Jacques Lucan, moi après eux, on a essayé de travailler sur les bâtiments, l'œuvre, et de la faire exister, voilà, avec des expositions, des ouvrages. Voilà l'histoire.
Il était très connu par le grand public, une aura internationale, mais assez méprisé par le milieu architectural français.
Peut-être pas tout le milieu architectural. C'est vrai qu'il a récolté aussi ce qu'il a semé, c'est-à-dire que lui-même a été très critique vis-à-vis de la profession, vis-à-vis des grands ensembles, de toute cette production-là, un peu quantitative de cette période. Et puis il avait des pratiques aussi pas très orthodoxes. Enfin, il volait des projets à des confrères, il s'en vantait publiquement, ce qui est quand même pas très bien, quoi. Voilà. Bon. Donc il a tout fait pour se faire détester, ça, et ça a marché. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le milieu des professionnels, était un peu remonté contre lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il a fait de la prison. Il a payé un peu pour tout ça, hein, pour tout ce qu'il a fait qui était un petit peu en dehors des règles, voilà. Mais il avait l'amitié des plus grands de la profession. Il avait l'amitié d'Auguste Perret, il avait l'amitié de Jean Prouvé. Donc il y a des grands messieurs qui l'ont jamais abandonné, qui ont même témoigné pour lui, en sa faveur, pendant le procès. Il était rejeté par la profession. Il était connu par le public, mais je vous le dis, plus comme un people, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire parce qu'il faisait des grandes fêtes dans sa propriété d'Aix, parce que c'était un osseur, parce qu'il avait écrit des livres. Le grand public, surtout en France, à l'époque, il n'était pas internationalement. Le grand public le connaissait pour ces raisons-là et pas vraiment pour son œuvre d'architecte.
Donc, depuis quelques années, on s'intéresse à son œuvre d'architecte. Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour l'œuvre cette fois-ci ?
On s'y intéresse à nouveau depuis les années 80. C'est-à-dire que on s'est tourné à nouveau sur son œuvre quand, dans le milieu de l'architecture et plus généralement, on s'est inquiété de l'espace public, de la qualité de l'espace public. Ce que n'ont pas les grands ensembles, par exemple. Voilà. Et on s'est aperçu que, en même temps qu'on produisait les grands ensembles en France, Fernand Pouillon faisait des cités de logement avec des très beaux espaces publics. Des espaces publics tenus, dessinés, aménagés, avec des arbres, du mobilier urbain, avec des ensembles à échelle humaine. Bon. Donc on a commencé à s'intéresser à nouveau à Fernand Pouillon pour les leçons qu'on pouvait effectivement tirer de son travail, pour son actualité au fond. Hein. C'est toujours comme ça qu'on réécrit l'histoire, hein, d'une certaine manière. Et ensuite sont venues des questions liées à finalement aussi les qualités identitaires de son architecture. Fernand Pouillon a essayé quand même, c'est le meilleur de son œuvre, de faire une architecture qui ait des qualités méditerranéennes, d'expression méditerranéenne, sans trop tomber dans la mièvrerie, le néo-provençal un peu convenu, etc. Donc il a essayé de faire une architecture un peu syncrétique. D'ailleurs, ces immeubles d'Alger des années 50 ressemblent aux immeubles marseillais, de la Tourette par exemple, ou des 200 logements à Aix. Voilà. Donc c'est un architecte qui à la fois voulu être moderne, répondre aux vraies questions, aux vrais enjeux de son temps, mais en même temps sans renoncer à la tradition et une identité locale. Et ça aussi, c'est quelque chose une question qu'on s'est reposée il y a quelques années, la question de l'identité locale, quoi. La question d'une architecture qui ne soit pas la même partout, qui ait les mêmes qualités à New York, à Paris, à Marseille, mais qui soit porteuse de valeurs identitaires, quoi, voilà. Sans pour autant, encore une fois, évoquer une mythique architecture néo-provençale rurale ou quoi que ce soit. Bon, ça, il savait le faire aussi, il l'a fait très bien d'ailleurs, aux Sablettes, il le dit, hein. Il le regrette presque, il dit les Sablettes, j'ai fait quelque chose qui est à la fois très beau mais qui est facile. Bon. Donc voilà, on a redécouvert Pouillon pour toutes ces nombreuses raisons qui sont des questions d'aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas évoqué une question aussi et une qualité importante de son architecture qui est la durabilité, elle vieillit bien. Voilà. Il a utilisé la pierre, mais aussi la brique, les produits rouges, les céramiques, toutes sortes de matériaux traditionnels, le béton également. Ces immeubles sont souvent des immeubles mixtes. On les lit comme des immeubles traditionnels, mais pas du tout. C'est des immeubles qui sont techniquement mixtes. Ils utilisent le béton armé, le béton et les matériaux traditionnels, pierre, céramique, bois. Et ils ont des qualités thermiques, acoustiques, ils vieillissent bien et tout ça. Bon, c'est des questions d'aujourd'hui.
C'était pas si courant dans les années où il a construit ce genre de qualité dans les bâtiments.
Voilà, c'était pas courant en tout cas. En tout cas, c'était pas courant dans le logement social. C'était pas courant dans le logement pour le plus grand nombre où l'enjeu c'était de faire beaucoup le moins cher possible. Bon, c'est la seule excuse des grands ensembles, c'est qu'il fallait loger beaucoup de gens, faire vite et que ça coûte pas trop cher. Bon. Les grands ensembles sont un monument de notre histoire, sont un moment et un monument important de notre histoire. Il faut les juger avec ce regard aussi, pas seulement un œil critique, c'est aussi une réponse qu'il fallait donner. Voilà. Alors, elle a été plus ou moins bien donnée par des architectes. Il y a certains architectes qui ont fait des bons grands ensembles. Pouillon est de ceux-là.
Nicolas de Barbarin, pour cet événement autour de Fernand Pouillon et de son architecture, le CAUE n'a pas mis en évidence l'architecture méditerranéenne de Fernand Pouillon, puisque l'exposition que vous accueillez, c'est plutôt des projets qui ont été faits à Paris.
Oui, c'est un goût du contre-pied ou du contre-champ, on va dire, ou alors pour les matchs Paris-Marseille. Non, c'est pour montrer à la fois la dimension autre que strictement bucco-rhodanienne de l'œuvre de Pouillon, même si c'est effectivement là qu'il a forgé à la fois son caractère. Ce que l'on dit, c'est qu'il est à la fois marseillais et aixois, ce qui est assez rare. On sait que c'est deux villes très différentes. Il y en a une baroque, truculente, l'autre un peu plus austère et commerçante, et mécanaille. Et voilà, et Pouillon, il était ça à la fois. C'était un aristocanaille, enfin, un commerçant truculent, enfin il était les deux à la fois, et donc c'est pas pour rien qu'il est dans les Bouches-du-Rhône, je pense, enfin en tout cas où il y a une coïncidence qui est assez intéressante, mais c'est en même temps bien de montrer qu'il y a une dimension autre. L'épisode parisien est importante, il se trouvait que cette expo très belle existe, elle a été présentée au pavillon de l'Arsenal, elle a un petit peu tourné en France mais toujours en morceaux, c'est-à-dire jamais toutes les maquettes dans des petits lieux, donc c'est la première occasion de la présenter en entier au public autre que les Parisiens. Voilà, donc la directrice Sandrine Dujardin a proposé qu'à l'occasion de l'édition de la carte, on fasse venir cette expo, et on s'y attelait, on a trouvé en plus ce lieu, donc voilà, les choses se sont enchaînées comme ça.
Donc les projets parisiens dans l'expo, mais la carte quand même, elle, c'est une carte du promeneur architectural, donc qui propose une cartographie des projets de Pouillon, réalisés ou pas, dans le département.
Voilà, c'est la première d'une série qui est un document de sensibilisation du public à l'architecture. Donc là, on inaugure avec Pouillon. Je pourrais raconter juste un peu pourquoi c'est intéressant pour nous, sérieux, de commencer par Pouillon. Mais après, on compte la prolonger donc dans quelques mois avec Gaston Castel, autre grand architecte du département. Un peu plus tôt, il a commencé sa carrière un peu plus tôt, il a fini un peu plus tôt que Pouillon, mais c'est un grand personnage aussi. Et puis après, en faire d'autres, non pas forcément thématiques sur des architectes, mais sur des thèmes transversaux ou grands architectes 20e siècle. Enfin bon, vous découvrirez petit à petit ce qu'on va faire dans cette série-là. Mais qui font partie des missions du CIE. Là où c'est intéressant de commencer par Pouillon, c'est que Pouillon posait au cœur de sa problématique la relation à l'intérêt public, la relation au public, et ça c'est la légitimité du CIE. C'est-à-dire que c'est assez amusant, je ne sais plus si on l'a mis dans la carte ou si on peut le trouver sur le site des Pierres Sauvages, il a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur de l'époque, dans les années 70, pour proposer un article de loi sur l'architecture, dans lequel il définit quel est l'intérêt public de l'architecture, et dans sa relation, et quel est l'intérêt du patrimoine, et l'intérêt du site, et comment on peut construire dans un site sans forcément singer l'existant, mais au contraire en le respectant, en le magnifiant ou en se battant avec, etc. Toutes choses qui sont à la fois les problématiques quotidiennes du CIE et en même temps ce qui fonde l'intérêt, l'existence même du CIE, l'ontologie du CIE, puisque le CIE existe parce que la loi sur l'architecture dit que la qualité de l'architecture est d'intérêt public. Chose que Pouillon avait écrit au ministre quelques années plus tôt déjà. Donc voilà, donc on se sent finalement, nous, CIE, très proche de Pouillon pour ça. Plus son amour des livres, qui est aussi une des petites missions du CIE, d'essayer d'éditer, de transmettre.
Comment a été conçue cette carte alors du promeneur architectural ?
On est parti de l'idée, puisqu'on avait ce partenariat avec l'association des Pierres Sauvages de Belcastel, qui avait un grand fonds d'archives, de dire que c'était l'occasion ou jamais, puisqu'il existe déjà des livres qui approfondissent les choses, de faire la totale, l'intégrale de Pouillon, de présenter au public l'intégrale, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on connaît telle ou telle personne va vous dire « Ah oui, je sais que la fac de droit, c'est Pouillon, oui, je sais que le Vieux-Port, oui, je sais ça », mais une vision globale de tout ce qu'il a fait, personne n'a. Donc on proposait de donner au public l'intégralité de tout ce qu'il a pu faire dans les Bouches-du-Rhône. Et après, c'est poser des questions pragmatiques. C'est qu'une carte, c'est quand même pas une encyclopédie, c'est pas très grand. Donc on a travaillé là-dessus sur comment serrer les questions en faisant, avec Jean-Lucien Bonillo, des zooms importants sur certaines opérations et sur d'autres, lister des opérations, faisant une tête de chapitre qui raconte. Donc on a les écoles qu'il a pu faire avec Eger, et etc., etc. Voilà. Et on a travaillé ça avec un jeune graphiste de talent, là, Emmanuel Guillemard, qui nous a fait quelque chose qui, je pense, est tout à fait lisible et manipulable. C'est, pour la petite anecdote, imprimé par l'IGN. C'est la seule personne qu'on a trouvé capable d'imprimer sur un vrai papier qui ne se déchire pas au bout de 3 fois, comme souvent les petits dépliants d'Office du Tourisme, et avec le nombre de plis qui fait que la carte peut être grande, mais tienne dans la poche, et on peut se promener avec et la réutiliser.
Et elle va être distribuée gratuitement dans divers endroits.
Voilà. Alors la liste pour le moment est, dans les offices du tourisme principaux, on va les lieux culturels habituels dans lesquels on trouve la plupart des gratuits que vous connaissez, les cartes postales et autres documents à l'attention du public. Et puis elle va être distribuée aux gens qui sont susceptibles de la faire tourner, donc comme les promeneurs architecturaux, comme les bâtiments de Pouillon dans lesquels du public rentre, comme les bâtiments privés dans lesquels du public passe aussi, type maisons individuelles qui sont louées ou des choses comme ça, enfin voilà.
Alors l'exposition qu'on évoquait tout à l'heure sur les projets de Fernand Pouillon à Paris, elle va avoir lieu dans un bâtiment de Gaston Castel, donc qui est le bâtiment qui est en face de la gare où avant se trouvait la maison de l'étranger et qui est en cours de travaux là, et c'est dans cet endroit-là. Alors pourquoi cet endroit-là ?
Alors c'est un peu comme Saussure disait, pourquoi on gravir les montagnes ? Parce qu'elles sont là. On cherchait un lieu pour accueillir l'exposition. Et en fait, en parlant à droite à gauche, pour l'anecdote, c'est Franck Gelling et Vincent Gaston qui m'ont dit « Va voir le hall de la DDE qui vient de restaurer Régis Daniel, tu verras, il a fait une salle d'exposition formidable ». Il se trouve que notre directrice Sandrine Dujardin a pris contact avec le DDE qui était tout à fait d'accord pour un partenariat avec le CAIE pour que nous, on présente une ou des expositions dans ce lieu. Voilà. Et ce lieu a toutes les qualités que l'on cherchait. Il est à la fois très bien situé, il a des dimensions remarquables, il a une plastique, une esthétique assez enthousiasmante. Voilà.
Et 700 mètres carrés sous une coupole de verre, c'est ça ?
Voilà, c'est une grande voûte de verre, un peu comme une carapace de tatou. À l'époque, les promotions, enfin les publicités de l'époque appelaient ça du béton translucide. C'est ce qu'on trouve dans les plaquettes de l'époque. C'est des petits pavés de verre, plus petits que ceux qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on voit des murs en pavés de verre. Et voilà, comme une peau de tatou, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agrandit par vagues successives. Il est étroit d'un côté, large de l'autre. Alors ça fait des effets de perspective qui font que l'espace est rétréci ou agrandi, suivant dans quel sens on le regarde. Il est en articulation un peu en biais avec le tout petit, enfin le hall d'entrée sur une double hauteur. Et sur les bas-côtés, il y a des cimaises qui ont été donc prévues par les architectes avec un éclairage qui fait qu'on peut mettre l'intégralité des panneaux et au milieu du hall, on peut poser des belles maquettes.
Il n'y a pas de grand lieu d'exposition de l'architecture à Marseille. Ce lieu-là pourrait en devenir un ?
On espère, oui, en attendant d'avoir ce que beaucoup de gens à Marseille rêvent, l'équivalent du pavillon de l'Arsenal ou d'Arc en rêve, etc. En attendant, on a quelque chose qui, si tout se passe bien, permettra effectivement de montrer au public de très belles choses.
C'était Nicolas de Barbarin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône et Jean-Lucien Bonillo, spécialiste de Fernand Pouillon. L'exposition Pouillon Saint-Vitier-Castel se déroule du 13 mai au 30 juin 2009 à l'ancienne aérogare de Marseille-Saint-Charles, vernissage le 12 mai à 18h30. La carte du promeneur architectural consacrée à l'intégrale de l'œuvre construite et dessinée de Fernand Pouillon est distribuée gratuitement et se trouve dans les lieux habituels. Plus d'infos et contacts au 04 96 11 01 20.